Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 370 et aujourd'hui on va reprendre une problématique qu'on n'a pas abordée et qu'on aborde parce qu'il y a une demande du terrain. Les responsables de formation sont très désireux de savoir quel est leur périmètre sur un sujet qui les passionne, même s'ils le connaissent mal. Et pour ça, j'ai trouvé quelqu'un qui avait fait l'actu sur le sujet. Et donc, c'est une petite feuille qui est un peu la minute, de la thématique. Et j'ai trouvé ça très bien de pouvoir faire quelque chose de pédagogique, d'abordable pour des gens qui ne sont pas spécialistes, qui ont beaucoup d'activités, et pour traiter le sujet qui est le nôtre. Et le sujet, c'est la RGPD et l'IA Act, où on voit qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont en train de se construire au niveau européen. On ne sait pas bien les conséquences que ça a dans le monde de la formation et des RH. Et pour ça, l'actu RGPD RH, on a choisi son directeur. C'est Raphaël Bouchard, qui est directeur de d'IPO, un ancien avocat, et donc qui est là pour nous parler de la RGPD. Bonjour Raphaël Bouchard.
Bonjour Stéphane, merci pour l'invitation. Enchanté.
Très très bien. Donc la mission, si tu l'acceptes, c'est de nous dire au fond, la RGPD, qu'est-ce que ça vient faire en formation?
Alors, tout d'abord, ne m'en veux pas, s'il te plaît. On dit, et ça c'est toujours, tout le monde se trompe, c'est pas la RGPD, c'est le RGPD. Et c'est
Ah
normal,
oui,
tout le
le
monde se trompe.
règlement.
Exactement, c'est le règlement. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que ça peut intéresser si certaines structures, notamment dans le RH, peuvent toucher différents pays. Le grand avantage, c'est l'harmonisation. Juste pour la première chose, c'est que le
Très
RGPD,
bien.
en fait, il s'applique de la même manière partout. Donc, une fois que vous êtes conforme en France, vous serez conforme en Allemagne, en Italie, etc., à quelques micro-changements près. Et ça, c'est très important de le dire. Et le RIA, donc le règlement intelligence artificielle, c'est pareil.
Absolument.
Ça, et alors, il y
Alors,
a plusieurs choses. Oui, pardon, vas-y, je
peut-être
t'en prie.
d'où ça vient? À quel moment l'Europe s'est appropriée l'idée de se dire on va faire un règlement pour harmoniser?
C'est effectivement une question fondamentale et très importante. D'abord, cocorico, parce que c'est la France qui a été le premier pays au monde à avoir une loi de protection des données. C'était en 1978, avec la création de la CNIL, l'autorité de contrôle. Comme ça a été plutôt un succès, il y a eu une sorte de loi européenne, une directive, donc c'est juste quelque chose de moins puissant, on va dire, qu'un règlement, qui a été au niveau européen en 1995 et qui a été donc remplacé par le RGPD en 2018. Et ce qu'il faut savoir, donc l'Union européenne a mis en place cette chose-là. Ce qui est assez intéressant avec le RGPD, c'est que d'habitude, le droit, il est toujours en retard. C'est-à-dire que les innovations arrivent et on légifère bien plus tard, et ça pose souvent des difficultés parce qu'il y a une période de transition. Ce qui est intéressant avec le RGPD, c'est que finalement, le législateur européen a identifié des problématiques très tôt, et ça a été négocié et travaillé pendant presque 10 ans, hein, le RGPD, avec énormément de contre-propositions, etc., pour mener un projet qui a vachement marché et qui est aujourd'hui un modèle mondial. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir conscience, c'est vrai que beaucoup de gens, par moment, et à tort ou à raison, ont un avis sur l'Union européenne, mais là-dessus, c'est vrai que l'Union européenne, elle était avant-gardiste, et il faut savoir que contrairement aux idées reçues, c'est plutôt les autres pays qui nous copient aujourd'hui. Le Canada
Ce
a
qu'on
fait
appelle le Bruxelles effect,
Oui, bah exact.
c'est un
Et bah
livre
oui,
qui a
c'est
été
ça.
sorti dessus.
Et bah exactement. Et c'est intéressant parce que la Suisse vient de mettre en place un équivalent, copier-coller du RGPD depuis quelques mois.
D'accord.
Le Canada, pareil. Le Brésil, pareil. La Chine, étonnamment pareil. Et même pour finir, par exemple, la Californie, à ce qu'on appelle le CCPA, avec une loi. Alors, elle est moins puissante. Le RGPD est peut-être le plus puissant. Néanmoins, ça fait des petits. Et on voit que ça se développe partout pareil. Donc, ça, c'est quand même important. Et je finirai sur un point, c'est que ce n'est pas anodin le RGPD. C'est pas anodin que ça vienne de l'Union européenne, donc quand même une démocratie. C'est fondamental la démocratie, c'est fondamental pour l'état de droit, et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui intéresse beaucoup les gens. Et nous, on le voit à titre personnel avec nos clients, puisque quand nous, on est délégué à la protection des données, donc on accompagne nos clients et on peut les aider dans le traitement des fameux droits fondamentaux qui ont été créés par le RGPD, puisque le RGPD a créé des droits fondamentaux, et c'est toujours intéressant de le savoir, parce qu'on n'a pas toujours de nouveaux droits créés quand même, hein, c'est pas tous les jours la
Bien
veille.
sûr.
Et donc, par exemple, le droit d'accès, on commence à connaître, et en RH, on va en parler peut-être, RH et formation, il est très, 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 de plus en plus appliqué, et le droit à l'oubli. Et
Très
donc,
bien.
nous, on le traite, et nous, on voit une explosion depuis quelques mois de ces demandes de droits. On voit donc que les citoyens commencent à s'imprégner de ces demandes et à les appliquer.
Pas très bien. Alors, justement, ça correspond en quoi? On dit qu'il y a des droits nouveaux. Un droit, est-ce que c'est un droit déclaratif ou est-ce que finalement, si on ne l'applique pas des entreprises, il y a un risque de sanction? Ça peut pas être un peu primaire, mais c'est souvent un moteur.
Non, mais tu as entièrement raison, et c'est le moteur, hein, sans sanction. Et en fait, c'est même très juste ce que tu dis, parce que l'une des grandes innovations, il y avait certains droits qui existaient finalement déjà avec avec la CNIL et la loi de 78, mais les sanctions étaient tellement faibles, hein, c'était 50 000, 100 000 euros maximum. J'ai pas envie de dire c'est rien, évidemment, on serait tous embêtés. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Depuis le RGPD, c'est 4% du chiffre d'affaires annuel mondial potentiellement.
C'est énorme.
Donc, ce n'est pas la même chose. Et typiquement, le droit des personnes, effectivement, les autorités de contrôle, on a une par État membre, hein, les autorités de contrôle, c'est l'un des points clés pour elles, le respect de ça. Donc, aujourd'hui, si vous ne répondez pas à une demande de droit dans les délais, puisqu'il y a un délai pour répondre qui est de 1 mois de manière générale, si vous ne répondez pas, vous êtes sûr de recevoir une demande d'explication de l'autorité de contrôle.
Très bien. Mais alors, est-ce
Aujourd'hui,
que
c'est.
finalement, on dit 4% au niveau mondial, donc c'est énorme, mais est-ce qu'il l'applique? Est-ce que la jurisprudence fait en sorte que, il l'applique? Et pour les petits, finalement, est-ce qu'ils ne passent pas entre les mailles du filet? Je dis ça pour les petits
Alors,
organismes de formation.
non mais tu as raison, tu as raison. Et le but n'est pas de faire peur, hein. Bien sûr que non, parce que, comment dire, en fait, avec le RGPD, il y a aujourd'hui, je pense, peut-être 80 structures par an qui se prennent une sanction réelle, hein,
D'accord.
c'est-à-dire qui aboutit à une sanction qui peut aller entre 20 et 100 000 euros, mais ça change. Pourquoi? Parce que la CNIL a mis en place depuis 6 mois, 7 mois, et on le voit la différence. Un système de quasi-automatique de sanctions beaucoup plus faible. C'est des sanctions qui vont jusqu'à 20-25 000 euros seulement, mais par contre qui tombent très vite. Et il y a
D'accord.
des éléments. Voilà. Et là, on voit une explosion, hein, de ces demandes-là. De vraiment, nous, on gagne des clients grâce à ça, typiquement, parce qu'une structure n'a pas respecté soit les demandes de droit, soit des demandes de suppression, soit tout l'aspect du RGPD. Hop, plainte notamment d'un salarié, dénonciation d'un concurrent. Il y a plein de moyens d'alerte. Les alertes, c'est hyper facile. On va en ligne, ça prend 3 minutes. Si on ne peut pas bien expliquer, c'est très rapide maintenant, 20 000 euros d'amende. Et ça, c'est plutôt pour les petits, effectivement, puisqu'avant, ils échappaient à ça, et ce n'est plus le cas. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a une explosion des petites sanctions qui vont donc entre 2 000 et 20 000 euros. C'est jamais agréable, et qui peuvent avoir avec astreinte et qui peuvent se multiplier si on ne respecte pas par la suite le RGPD. Donc, typiquement, les organismes de formation, il y a différentes problématiques, on pourra en parler après, mais nous, on en a plusieurs, hein, on en accompagne plusieurs, tant formation que recrutement que RH tout court. Et c'est vrai que c'est l'un des points, pour vous donner un ordre d'idée à tous ceux qui nous écoutent, c'est que le RH en tant que tel, de manière globale, c'est aujourd'hui 30 à 35% des plaintes CNIL.
Ah oui, quand même, c'est énorme.
C'est énorme. C'est à peu près, on va dire, 30-35 plaintes CNIL, 30-35 prospection commerciale, mais qui concerne aussi les organismes de formation, on en parlera tout à l'heure peut-être. Et après, ça va être violation de données, non-respect de droits, justement les 30 derniers pourcents, ça va être à peu près ça, manquement à l'obligation d'information, ce genre de choses.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, le RGPD, concrètement, moi j'aime bien le résumer en 4 piliers. D'abord, le premier, c'est la transparence. C'est vrai que le RGPD a imposé une transparence sur l'usage des données. C'est-à-dire que quand vous traitez des données, vous devez dire aux personnes, par exemple aux candidats, aux personnes qui suivent les formations, combien de temps vous traitez les données, quel type de données vous utilisez, est-ce qu'il y a des transferts, est-ce que vous les, est-ce que, quels sont les moyens de protection, etc. Ça, c'est, par exemple, ça c'est la transparence. Par moment, on peut même avoir le besoin de consentement.
D'accord.
Potentiellement, on pourra en reparler tout à l'heure pour l'exemple de la prospection. Est-ce que les organismes de formation sont soumis à ça ou pas, par exemple? Donc, il y a ces enjeux-là de transparence. Il y a
Donc,
aussi.
comment est-ce qu'on fait pour assurer la transparence? On fait un document et
Ah oui,
on leur
pardon.
demande aux autres de le signer, de le contresigner pour montrer qu'ils sont en accord?
Alors, tout à fait. En fait, il faut essayer. Alors, le RGPD, ce qui est compliqué, c'est que ça peut vite devenir une usine à gaz. Donc, il faut essayer de simplifier au maximum. Et typiquement, déjà, il faut mieux centraliser toutes les informations dans un document qu'en fait, on connaît tous, qui est la politique de confidentialité aujourd'hui. Et donc, ça dépend si c'est, par exemple, en ligne, un organisme de formation en ligne, il peut avoir sa politique de confidentialité en ligne et tout renvoyer vers ça. Par exemple,
D'accord.
les contrats que vous allez signer avec les candidats ou avec les personnes qui suivent les formations, vous pouvez aussi intégrer dans le contrat de vente une clause renvoyant vers cette politique de confidentialité, par exemple.
Bien.
Donc, en fait, comme ça, on centralise toutes les informations et tous les points de collecte, enfin, tous les plein de points de collecte, comme par exemple l'inscription, le contrat, va juste faire un renvoi vers cette politique.
Très
Ça
bien,
peut être
oui.
ça, c'est le moyen le plus facile, le plus efficace. Et comme ça, en plus, on a besoin de changer qu'un document quand votre structure évolue un peu.
Exactement. Donc ça, c'est la transparence.
Ça, c'est la transparence, effectivement. Il y a un deuxième point qui est fondamental et qui a vraiment changé avec le RGPD et qui peut concerner certains organismes de formation dans certains cas et aussi tout ce qui va être aussi outils, par exemple, outils de formation en ligne. Je m'explique. Le RGPD, il a mis en place aussi un mécanisme de contrôle sur les données. C'est-à-dire que avant, si vous aviez aujourd'hui n'importe quelle structure, comme toi Stéphane, comme moi, on a tous des prestataires, on utilise Zoom aujourd'hui, par
Bien
exemple.
sûr.
C'est un sous-traitant au sens du RGPD, c'est un prestataire technique qui traite nos données pour notre compte. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis un organisme de formation, plutôt par exemple si je fais de la chasse au recrutement, je suis chasseur de tête. Si je prends la base de données et que je le fais pour le compte de mon client, je vais être ce qu'on appelle un sous-traitant au sens du RGPD. Si je suis un hébergeur, je vais être un sous-traitant au sens du RGPD. Si je suis un outil de formation que je mets à disposition de mes salariés pour pouvoir faire de la formation, je suis sous-traitant au sens du RGPD. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sous-traitant, il a des obligations. Il ne peut plus traiter les données comme il veut. Ça serait aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas ça, hormis Californie. Un prestataire technique, il peut récupérer la base de données et la vendre. Il peut faire ce qu'il veut avec les bases de candidats, de leads. Il peut faire ce qu'il veut. C'est que ça pose quand même problème, parce qu'en plus, les prestataires, ils sont en cascade souvent. Et donc, en fait, on perd un contrôle total sur non seulement nous, citoyens, sur nos données, mais même nos structures sur nos bases de données, en fait. On ne sait pas ce qui se passe. Le RGPD, il a
Donc,
imposé
et
un contrôle.
quand on utilise Zoom, par exemple, donc on sait que c'est une boîte qui est donc américaine à la base, Teams aussi, on se dit si on travaille avec des gros, en principe, ils sont couverts pour le RGPD, c'est plus rassurant ou il faut leur demander effectivement?
Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que le RGPD, il aura imposé à eux, quelle que soit la taille, à garantir, à fournir certaines garanties, dont le fait qu'ils ne peuvent pas traiter les données en dehors d'instructions de leurs clients. Donc, par exemple, ils ne peuvent pas vendre de données comme ça. Ça ne peut être que sur autorisation de leurs clients. Donc, ça change tout, par exemple. Et typiquement, Teams, Zoom, etc. Beaucoup de gens les aiment pas parce qu'ils sont américains d'origine. Alors, ils ont peut-être des sièges en Europe en plus. Hein. Donc, c'est plus forcément, par exemple, si on prend Teams, en fait, c'est Microsoft France ou Irlande. Donc, en réalité, ce n'est pas une boîte américaine, juridiquement. Et donc, pour le coup, non, eux, ils respectent le RGPD. Il n'y a pas ce sujet là. Mais aux États-Unis, ce n'est pas forcément vrai.
D'accord.
Donc, on
Donc
garde le contrôle sur ces prestataires. Et c'est pareil.
à la limite, vu que c'est de la responsabilité du prestataire, ça décharge l'entreprise, qu'elle soit organisme de formation ou entreprise, de finalement de cette responsabilité. C'est pas
Alors,
la sienne.
oui et non. Tu as raison, tu as raison de poser la question, parce que j'ai oublié de préciser, c'est le point clé. Effectivement, c'est qu'est-ce que risquent les organismes de formation? Eh bien, ils ont l'obligation de contrôler ces prestataires sur le volet RGPD pour s'assurer qu'ils font bien les choses. Et par moments, on a des surprises, hein. Globalement, surtout les gros en B2B respectent bien parce qu'ils ont un enjeu de confiance. Mais nous, on a déjà vu des outils. Qui était par exemple dans le cas du KYC, alors ce n'est pas ce qui nous concerne là, mais quand même, ce n'est pas rien. L'une des boîtes principales, c'est un Américain. On voyait bien qu'il répondait difficilement à notre audit. Quand on a fini par creuser, en fait, il récupérait les données, il les vendait à n'importe qui, et il se faisait lui aussi de la pub sur la base de données de son client, où ils envoyaient des mailings, tu imagines bien. Pas possible. Donc, ça, le RGPD permet de garder le contrôle sur l'usage de ces données, donc de créer une réassurance auprès de ses propres clients.
Donc,
C'est
quand on prend
important.
Zoom par exemple, comment est-ce qu'on contrôle Zoom
Alors,
si on l'utilise?
tu as raison, c'est une bonne remarque. Il y a malheureusement deux mondes. Il y a, on va dire, le monde des GAFAM et des très très gros comme ça, qui ne peuvent être, et même OpenAI, on peut en parler après parce qu'on parle de l'IA Act, hein,
Sûr.
qui ne peuvent en réalité, eux, bon, ils ne répondront pas à DPO, je dois être le premier DPO de France, ils ne répondront pas. Par contre, ils vont répondre à l'autorité de contrôle. Donc, eux, ça
D'accord.
va être plutôt autorité de contrôle. Typiquement, Google, là, pour les CNIL, ils ont, je ne sais pas si vous avez vu, pour les cookies, ils ont eu 300 millions d'amendes.
Ce qui n'est pas énorme vu leur chiffre d'affaires.
Ce qui n'est pas énorme vu le chiffre d'affaires, mais c'est quand même, c'est que la France. parce que c'est
Ah
la
oui,
CNIL qui
d'accord.
l'a fait, hein. Et donc c'est
D'accord.
sur un seul État, donc c'est sur Google France. Et en fait, cette sanction pourrait se répercuter dans tous les États membres.
Et pour les gros, on dit souvent qu'ils laissent traîner parce qu'il y a appel, il y a possibilité de faire traîner en justice. Et finalement, quand ça arrive à échéance, ben, ils ont eu quelques années pendant lesquelles ils ont profité du système.
Alors ça c'est vrai, c'est le même problème pour toute la justice, tu as raison. Google, là, ils viennent d'avoir pour le coup 3 milliards d'amendes par la Commission européenne en termes de manquement pour la concurrence. C'est tout à fait vrai. Moi, j'ai une amie qui avant était avocate en droit de la concurrence, c'est là où c'est le pire, hein. Et par exemple, sur les tubes cathodiques, celui-là est très parlant, les télé-tubes cathodiques, elle avait travaillé sur un antitrust là-dessus. C'est que, enfin, je veux dire, il y a plus de télé cathodique depuis longtemps, et bah,
Ouais, bien
c'était
sûr.
maintenant qu'effectivement ils allaient avoir une amende peut-être de 4 milliards, mais c'est bien 20 ans après. Néanmoins, sur le RGPD, c'est un peu plus rapide pour une
D'accord.
raison simple, c'est qu'en fait, c'est la CNIL qui est à la qui en première instance fait instruction et décision. Donc en fait, si de toute façon, par exemple, là, donc, Google 300 millions, ils peuvent faire appel devant le Conseil d'État, mais ils doivent quand même payer. Non, c'est suspensif, pardon. Ils doivent évidemment pas payer tout de suite, mais là, le Conseil d'État, ça sera assez rapide. Donc, ce qui fait que là, c'est quand même dans les 6-7 mois, il y aura confirmation ou
Ah
pas.
oui, d'accord. Oui,
Donc, ça,
c'est
c'est
très
rapide, du
rapide.
coup. Ouais, c'est plus rapide.
Alors, un troisième pilier, pardon.
Oui, non, je t'en prie, troisième pilier, là, c'est la sécurité. Parce que, bah, évidemment, on en parle, hein, sécurité des données, etc. Cybersécurité, tout le monde en parle. Le RGPD, il a vocation à imposer aux acteurs un niveau de sécurité minimum adapté à ces traitements. C'est une obligation si on ne le fait pas. Et donc, si on ne le fait pas, on peut être sanctionné. Et il faut bien que tout le monde ait conscience parce qu'on va nous parler souvent, ah, mais moi, je suis ISO ou est-ce que vous êtes ISO et compagnie? Être ISO n'est pas une obligation légale.
Bien sûr.
ISO, être ISO, c'est une certification. Tant mieux si vous l'avez, tant pis si vous ne l'avez pas. Le RGPD, c'est obligatoire. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on peut être parfaitement conforme sur l'aspect cybersécurité, mais ne pas être ISO. Et en fait, l'inverse n'est pas forcément vrai. Et donc, il faut distinguer ce qui est légal et ce qui est plutôt du marketing. Je ne dis pas que c'est rien, bien sûr, mais c'est deux choses différentes. Et donc, il y a vraiment l'aspect sécurité. Et après, le dernier pilier, ben, on
Alors,
en a parlé.
sur la
Oui, pardon, je t'en
sécurité,
prie.
qu'est-ce qu'on fait quand on est à une entreprise? Comment est-ce on a le bon niveau de sécurité?
Alors, déjà, alors moi je ne suis pas expert cybersécurité, même si on va dire qu'avec mon travail, j'ai le premier niveau, on va dire, d'exigence.
D'accord.
Déjà, tout dépend de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le papier est beaucoup moins dangereux que le numérique, déjà. Donc, si c'est essentiellement papier, votre risque, il est quand même beaucoup plus faible. Vous avez une armoire chez vous et c'est déjà très bien. Le principal risque, il va être. En fait, il y a différents types de risques. Il y a des risques qui sont plutôt liés à un usage. À un usage que vous avez au quotidien. Je pense typiquement, une des violations de données qui arrive le plus souvent en France, et notamment en RH, c'est l'email que j'envoie à la mauvaise personne.
Oui.
Et ça, c'est tout bête, parce que ça, vous avez beau
Oui, bien
avoir tous
sûr.
les moyens de sécurité que vous voulez, en fait, c'est juste, je suis fatigué, je suis pas sensibilisé au truc, je me trompe. Je te donne un exemple que j'avais eu quand
Bien
j'étais
sûr.
avocat. C'était une boîte d'intérim que tout le monde connaît. L'un des membres, je crois que c'était le RH d'une filiale, avait envoyé un mail avec un fichier avec les 1000 salariés, tous les salaires et compagnie
Ah oui.
à la mauvaise personne. Ce destinataire était un responsable syndical d'un certain syndicat.
Quand la chance n'est pas là, la chance n'est pas là.
Là, exactement. Donc là, ben, la double peine, clairement. Donc par exemple, on peut le prévenir. Donc typiquement, ben, le conseil que je donne, c'est que si vous devez envoyer, notamment aux RH, des fichiers ponctuellement par mail contenant un certain nombre d'informations sensibles, pardon, soit vous utilisez un outil spécifique comme un WeTransfer. Alors, plus WeTransfer parce que justement ils ont fait des bêtises, mais il y a des équivalents. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre des garde-fous, mais le mieux c'est de mettre un mot de passe. Évidemment, de le faire tout le temps, c'est impossible. Donc c'est vraiment que sur les fichiers lourds. Mais mettez un mot de passe sur le fichier, vous le transférez. Si vous êtes trompé de destinataire, c'est pas grave. Vous envoyez le mot de passe de toute façon via un autre mail. Par exemple, ça c'est une mesure. L'une des premières. Sinon, c'est évidemment déjà aussi d'avoir plutôt tout en cloud. C'est-à-dire que c'est intéressant tu vois, il y a beaucoup de gens. Et on a beaucoup de clients qui pensent que avoir les choses en dur sur son ordinateur, c'est plus sécurisé.
Non.
Alors que c'est l'inverse. La clé USB, c'est le pire truc, par exemple. Et typiquement en RH, ça arrive encore souvent que je prends ma clé USB, je me fais une extract du SI RH, j'ai toutes les informations, je les mets sur ma clé USB et je l'oublie. Je la perds, je l'oublie. Et là, patatras, pareil, violation de données. Donc, déjà, excluez tout ce qui est nomade. Mettez tout sur du cloud. Parce que si vous perdez votre ordinateur, votre mobile, je ne sais quoi, il suffit de changer les mots de passe, plus d'accès. Beaucoup plus facile. Évitez de multiplier les extractions dans tous les sens. Il y a des gens qui ont tendance à garder l'extraction depuis 1998 de tous ses salariés. Vous n'avez pas le droit, par exemple, salarié ou candidat. Donc il y a différents moyens. Il y a des petits trucs clés comme ça, tant au quotidien. Et après, il y a vraiment des mesures techniques. Si par exemple moi je suis de la formation et j'utilise une plateforme pour les inscriptions ou pour la formation, là j'ai des mesures carrément techniques à mettre en place. Je peux penser, par exemple, si j'ai une base de données, avec une plateforme, il faut chiffrer les données, par exemple.
Ce que
Donc
les gens font,
c'est
par
ça.
exemple, quand ils font des signatures qui sont les signatures feuilles de présence à distance, etc., ben, il y a des spécialistes qui sont dessus, qui justement cryptent tout ça de façon à
Effectivement.
sécuriser. Et c'est pour ça que la prestation est intéressante, ça sécurise l'ensemble.
Tout
Le
à fait.
quatrième pilier.
Et le quatrième pilier, on en a parlé, c'est le droit des personnes.
Ce qui veut
Voilà,
dire
droit des
quoi?
personnes. Ça veut dire que le RGPD a créé des nouveaux droits. Donc le droit les deux plus connus, parce que les autres, en fait, on ne les voit jamais. Hein. Il y en a trois, on va dire trois, qui sont vraiment 99% des demandes. Donc le droit d'accès, c'est-à-dire vous pensez ou vous savez que vos données sont traitées par une structure, vous avez le droit de lui demander, un, est-ce que c'est le cas? Et si oui, qu'est-ce que tu fais de mes données? Il est obligé de vous répondre avec une certaine forme et donner beaucoup d'infos. Première chose. Il peut même vous donner, il y a même un droit de copie, c'est-à-dire que vous allez me donner des captures d'écran, même les fichiers. Ça, c'est l'un des principaux. L'autre, c'est donc le droit à l'oubli, c'est que dans certains cas, j'ai le droit de demander qu'on arrête et qu'on supprime mes données. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a quand même des limites. Évidemment, par exemple, si vous m'avez payé la formation, moi, organisme de formation, j'ai des obligations fiscales. Donc, je ne vais pas supprimer toutes les informations fiscales, je dois les garder 10 ans, par exemple.
D'accord.
Donc, évidemment, moi, si je supprime, en fait, je me mets en danger face à l'administration. Il ne faut pas le faire.
D'accord.
Donc, il y a ce genre de choses. Et après, vous avez le droit d'opposition, qui en fait, celui-ci, c'est quand on va vous démarcher, faire de la prospection commerciale,
Ah
j'ai le
oui.
droit de dire arrêtez de le faire.
Et si je fais de la prospection, si par exemple je suis un organisme de formation, j'ai des apprenants, ils sont venus une première fois, je me dis ce serait bien qu'ils reviennent une deuxième fois, je les relance. Est-ce que j'ai le droit de faire cette relance si je leur ai pas demandé?
Ah oui, mais alors tu as tout à fait raison, c'est une super. C'est une question très importante. En fait, les règles de prospection commerciale diffèrent si on est en B2C ou en B2B. Et donc la question
D'accord.
se poserait de savoir, organisme de formation, par exemple, est-ce que je suis en B2B ou en B2C? Je me suis posé la question pour l'un de nos clients récemment, et aussi pour du recrutement. Et en réalité, un candidat ou un employé, c'est bien du B2B. Et
Bien sûr.
concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je n'ai déjà pas besoin d'avoir le consentement préalable pour le prospecter. Et ça, c'est
D'accord.
intéressant.
Oui,
En
mais
fait,
c'est énorme.
l'opt-in, et ouais, c'est énorme, c'est pas rien. Hein. L'opt-in, il n'existe, et ça, beaucoup de gens qui l'ignorent, même chez les spécialistes du RGPD, ce qui est surprenant, c'est que l'opt-in n'existe essentiellement que pour le B2C.
D'accord.
D'accord? B2B, ça, en France, ça n'existe pas. Pour le coup, il y a quelques petites différences. Par exemple, en Italie, c'est pareil. Mais en Allemagne, non. En Allemagne, on est obligé d'avoir quand même le consentement préalable. Mais en France, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que vous recevez des emails, toi, moi, on reçoit des emails de prospection tout le temps. Parce qu'en fait, on a le droit. Par contre, il y a des obligations. C'est que déjà, il faut que la formation, elle soit adaptée à la personne que vous allez cibler. C'est-à-dire que si vous faites une formation sur la cybersécurité, vous n'allez peut-être pas cibler un boulanger. Par exemple, ça, vous n'avez pas le droit. Ça peut paraître évident, mais en fait, il y en a qui ne pensent pas cette logique. Ils ne pensent pas logique
Non,
persona, ils
non,
font
non, non,
n'importe
bien
quoi.
sûr. Et comme on achète des fichiers qui peuvent être génériques, finalement, on envoie tous les... Et ça ne coûte pas grand-chose faire un mail. Donc, on envoie un système de mailing et finalement, on envoie à tout le
Exactement.
monde. On va à la pêche, quoi.
Exactement, exactement. Et donc ça, il faut faire attention, il faut bien cibler son persona. Il faut qu'il soit concerné par le service que vous allez fournir. Et l'autre point, c'est évidemment de toujours donner la possibilité de se désabonner. C'est pour ça que vous avez normalement le lien des abonnements. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, je vais en profiter parce que moi, je reçois, par exemple, par moment, des offres de formation, ce genre de choses qui n'est pas inintéressant. Mais le premier truc qui m'horripile, évidemment, ils n'ont pas de bol, ils tombent sur moi qui fais du RGPD, c'est qu'il n'y a pas le désabonnement. Donc, je sais déjà qu'ils ne respectent même pas les. Enfin, a priori, ils ne sont même pas posés la question. Et donc.
Mais alors souvent, pour ceux qui l'utilisent, les plateformes traditionnellement mettent automatiquement le
C'est
désabonnement.
vrai. Tu
Voilà,
as
donc
raison.
c'est donc
Tu as
ça
raison,
aide
c'est
aussi.
vrai. Ça aide, effectivement, et ça, c'est lié au contrôle de prestataire dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'en fait, le RGPD, dans le cadre du contrôle, leur a donné des obligations de conseil et notamment de faire en sorte que leur outil soit conforme au RGPD dès la conception et par défaut. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ils le font. Mais certains, soit n'ont pas le réflexe, soit ils ne le cochent pas ou je ne sais pas quel est leur outil. Et donc, ils ont envoyé ce genre de choses sans désabonnement. Ça, c'est un risque tout de suite, hein. Parce que là, si on fait de la prospection massive et qu'on oublie ces règles, on se met en danger puisque en 3 minutes, je fais une plainte à la CNIL. Au bout de 4 plaintes à la CNIL, je reçois sur ce sujet-là, je reçois une demande d'explication. Donc il faut faire attention. Donc ça, c'est important, c'est qu'effectivement, sachez que vous avez le droit de prospecter en B2B sans difficulté. Et voilà, c'est déjà pas mal.
À condition qu'effectivement ce soit dans la cible et qu'on ne fasse pas au tout venant, parce que là aussi il y a des fichiers. Il y avait une question aussi qui revenait souvent. On dit souvent qu'il faut un interlocuteur dans l'entreprise qui puisse répondre aux questions, qu'on identifie quelqu'un qui soit un agent RGPD.
Alors, ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas la compétence de répondre, par exemple, une demande de droit d'accès, une demande de droit à l'oubli, je ne sais quoi, ou même d'audité, ben, en fait, ça en est bien embêté pour le faire. Donc, normalement, et c'est vrai que ça, c'est d'ailleurs, ben, je vais faire ma promo, c'est pour ça que nous, on a aujourd'hui, enfin, que les clients viennent nous voir. C'est pour le représenter, leur faire ça à leur place. En plus, ça, dans les périodes de difficultés, c'est-à-dire que si vous avez un prospect ou un candidat qui est procédurier un peu véhément, ça le rassure beaucoup d'avoir que vous ayez un DPO et ça calme le jeu. Nous, aujourd'hui, avec nos 500 clients, on n'a jamais eu.
Alors, DPO.
Pardon, excuse-moi, DPO, délégué, c'est le terme anglais, beaucoup plus joli qu'en français, mais c'est délégué à la protection des données. Et donc, c'est celui qui, effectivement, est le référent et qui va être le chef d'orchestre de la mise en conformité de la structure. Et en fait, il va notamment gérer ce type de demande de droit pour les clients et s'assurer que les formes sont respectées et compagnie. Nous, on a même des clients, pour te dire, de tout type d'activités, hein, qui sont venus nous voir parce qu'ils avaient répondu eux-mêmes à une demande de droit, mais pas dans la forme. Et donc, plainte CNIL.
Ah, d'accord.
Tu vois, donc
Mais
le DPO, il répond ça et
quand on est
c'est
une
le. Oui,
petite structure,
tout à fait.
vu les chiffres d'affaires qu'ils font,
T'as raison,
un
bien sûr.
DPO, même un prestataire externe, quels que soient les tarifs, c'est hors de leur portée.
Tu as raison, on est trop cher. C'est tout à fait juste. Aujourd'hui, ils sont à peu près. Donc, effectivement, ça dépend de la taille de la structure. Nous, on est beaucoup plus, hein, au moins déjà PME, ETI, en termes de cible, bien sûr. Et aujourd'hui, moi, je dirais que tant que vous n'avez pas été embêté, ne payez pas un DPO. Par contre, c'est vrai que nous, ce qu'on constate, et le but n'est pas du tout de faire venir, avoir plus de clients là-dessus, mais avant. Il n'y avait pas les structures qui, effectivement, plus petites, qui visaient non pas des grosses compagnies, mais dont le persona, c'était bah, des candidats, des apprenants, n'étaient pas très inquiétés. Mais ça change. Parce que, comme je le disais au début, il y a de plus en plus de connaissances comment dire, des droits des personnes. Et donc, les gens l'appliquent de plus en plus. Et donc, c'est vrai que les risques sont de plus en plus forts. Mais néanmoins, soyez rassurés quand même. Si vous respectez un peu les règles standards, ça devrait aller. La CNIL, elle a quand même de bonnes fiches avec de bonnes explications. Il y a quand même pas mal de choses dessus. Nous, il faut venir nous voir si effectivement ça commence à devenir plus chaud. Sauf par contre, si c'est les gros et
Est-ce
les moyens, là c'est moins vrai.
que quand on est un petit, une formation d'une journée ou d'une demi-journée, c'est intéressant?
Moi, j'ai envie de te dire non. Ils n'en prendront pas
Voilà,
plus que ce qu'il y
d'accord.
a sur
Ah, très bien.
moi j'ai envie de te dire non. Surtout que moi je suis très alors moi je suis très critique à titre personnel des formations qui sont fournies. J'ai toujours trouvé que c'est mon avis un
Bien
peu du
sûr.
vol. Souvent je
D'accord.
trouve que c'est très juridique et en fait le but n'est pas de vous faire des gens un DPO. En vrai sur le site de la CNIL encore une fois il y a tout ce qu'il faut pour qu'une petite structure puisse globalement s'en sortir en cas de demande. Elle répond même à des, elle a même une adresse mail à laquelle elle répond aux
Incroyable.
professionnels. Donc, ne payez pas une formation 1 000 ou 2 000 euros où vous n'allez pas apprendre grand-chose en pratique en réalité. Enfin, moi, c'est Marocco, je ne suis pas très fan.
Très
Mais
bien.
je pense que ce n'est
Alors,
pas nécessaire.
on va faire la transition justement avec le, avec l'IA. Beaucoup de personnes disent, on peut demander à ChatGPT de nous aider. Et finalement, il est très bien fait pour le droit. Et il est patient déjà. Et puis, vous pouvez demander à n'importe quelle heure. Est-ce que toi, tu dirais, ça peut être une bonne aide à la décision, l'IA?
Alors, pas du tout. Non, mais c'est pas pour défendre mon boulot, parce que pour le coup, nous, on travaille, on aimerait travailler avec ça, on aimerait que ça nous aide. Pour être transparent, ça marche pas bien du tout. Ça se trompe à peu près tout le temps. C'est assez problématique. Pour te donner un ordre d'idée, on s'était posé la question sur un sujet que je connaissais pas la réponse. On a demandé à ChatGPT, la version pro et compagnie, hein. On lui a demandé 4 fois la même question avec 4 fois, en lui demandant 4 fois la source, il a donné 4 fois une réponse différente avec 4 sources différentes. Et celle qui s'approchait le plus qu'on a regardée, la source ne disait pas du tout ce qui était dit par ChatGPT. Donc sur le droit, c'est peut-être des trucs vraiment basiques, basiques, et encore, on est justement très, très, très critique, et c'est intéressant de voir que beaucoup d'outils ont voulu sortir là-dessus.
Bien sûr.
Et en fait, ça n'a pas marché du tout parce que ça ne. Ça... Ils ont deux problématiques. La première, c'est qu'ils se disent responsables de rien. Donc, c'est sûr que si on vous donne un conseil et que derrière, en fait, ils se trompent et qu'il n'y a pas de responsabilité, c'est quand même problématique. Et en plus, ils disent quand même beaucoup de bêtises. On pourra en parler, mais peut-être si on a le temps. Mais l'IA, elle hallucine. Et c'est-à-dire que l'IA, elle ne comprend pas la question, elle ne comprend pas la réponse. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est
Mais ce qui est
problématique.
intéressant, alors on peut remarquer aussi que Dalloz Lefebvre a lancé une IA pour les avocats, justement, en faisant des rags, en reprenant les règles de droit, et donc en préparant le prompt, etc. Alors je ne sais pas du tout si ça fonctionne bien, mais ils se sont positionnés dessus en disant on essaye d'apporter, et semble-t-il, l'écho n'est pas négatif non plus. Donc je sais
Alors,
pas, voilà.
je ne sais pas, moi, je n'ai pas eu cet outil. Je pense que pour certaines choses, ça peut être bien, parce que par exemple, prenons Doctrine, qui est un concurrent de
Oui,
Dalloz, hein, et
bien
qui
sûr.
marche beaucoup mieux à titre perso, je trouve,
Oui,
est basé
d'accord.
sur l'IA, et ça marche super bien pour ça.
Eh oui.
Par contre, et donc par exemple, si c'est pour, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit peut-être pour ça, pour essayer de concurrencer Doctrine, parce que Dalloz, c'est plutôt de la jurisprudence. Donc pour trouver des décisions avec mots-clés, c'est une tuerie, l'IA.
Ah oui,
Là-dessus,
ça
oui. Et
marche.
donc ça ne m'étonne pas que les avocats soient la cible, notamment en contentieux. Par contre, sur du conseil, ça ne marche pas. Parce que le conseil, il ne va pas avoir la jurisprudence qui te dit que machin, c'est par moment, c'est rarement binaire. Par moment, il y a une micro-subtilité qui fait que ça change tout. Et donc aujourd'hui, je ne te dis pas que ce ne sera pas le cas dans 10 ans, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans que nous, on veut l'essayer, que ça ne marche pas. Et que finalement, même pour nous, parce que nous, on aimerait bien avoir un outil
Ouais,
là-dessus qui
bien
nous fait
sûr,
gagner de la
c'est pratique.
productivité. Et en fait, aujourd'hui, sur ce volet-là, ça ne marche pas. Et nous, on le voit beaucoup l'IA, hein, parce que bah, avec nos 500 clients, on en a beaucoup dans la tech. Donc en fait, il y en a beaucoup qui ont. Déjà, on en a beaucoup qui sont des outils, non pas des. C'est pas de l'IA générative, hein, bien sûr, c'est pas du Mistral machin. Par contre, c'est des outils qui vont se baser sur l'IA
Bien
générative pour
sûr.
fournir des outils d'IA. Ça, on en a pas mal. Et donc, on voit beaucoup le sujet. Et c'est vrai qu'on voit un peu ce qu'a dit le MIT. Je ne sais pas si tu as vu ce rapport il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Bah, le MIT a dit que 95% aujourd'hui des projets IA ne fonctionnent pas, sont un échec. Il n'y a que 5% qui marchent. Et c'est vrai que pour te donner un ordre d'idée là-dessus, alors je fais une petite digression, je suis désolé, mais c'est important. C'est vrai que moi, je le vois au quotidien, je me dis, tiens, c'est bizarre. On voit avec nos clients, ils essaient de lancer ces trucs-là, mais en fait, ça ne prend pas. Je pense qu'il y a différentes explications, hein, mais l'une de mes explications à ce jour, c'est que je pense que l'IA telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est adaptée pour vraiment très adaptée pour certains types de services. Je pense au développement, je pense à l'analyse de statistiques, des choses très tangibles. Mais dès que c'est moins tangible, elle se perd et elle n'y arrive pas aujourd'hui. Donc pour le
Donc,
juridique,
oui, exactement.
n'y allez pas, n'y allez pas.
Alors, en notant que l'IA ne fonctionne pas, Gartner avait dit que c'est à cause de l'homme et pas de la machine. C'est donc bien
Ah.
l'interface qui te. Parce que Gartner dit les gens ne savent pas utiliser la machine et c'est pour ça qu'ils ne savent pas. Donc, il faut que les deux progressent et apprennent à travailler ensemble. Donc, c'est. Mais tu as complètement raison. Il ne faut pas y aller sans critique, sans esprit critique, sachant aussi que toutes les IA progressent. Donc, si on l'a
OK.
essayé il y a un an, Aujourd'hui, avec GPT-5, on fait avec le deep search ou des choses comme ça, il y a des choses extraordinaires qui se font. Demain sera encore plus extraordinaire. Donc, c'est une course. Donc, il faut tout
Tout à fait.
surveiller. Mais aujourd'hui, bravo de ce que tu as dit, c'est clair et lucide. Alors, par contre, justement, pour rester sur l'IA, l'IA Act, pourquoi est-ce qu'on a créé l'IA Act alors qu'il y avait déjà le RGPD? Le RGPD.
C'est tout à fait juste. Alors, effectivement, le RIA, c'est pareil, un règlement IA qui a été, là pour le coup, rédigé très vite. Je pense qu'il y a eu un effet de panique. Ça, c'est pareil, c'est mon interprétation, hein. Mais c'est assez rare, pareil, que... Alors lui, il allait vraiment très très vite, hein. Et pareil, c'est très rare que ça arrive quasiment au même moment et qu'on se précipite pour faire un texte, surtout au niveau européen. Je pense que l'IA fait peur, déjà avec le terme intelligence artificielle. Tout le monde pense aux robots, etc. En fait, l'IA, elle n'est pas intelligente aujourd'hui. En fait, le terme est un peu galvaudé. Et donc, je pense que moi, j'aime bien, tu vois, faire le parallèle entre l'IA et le spatial. Enfin, dans le spatial, pour justifier... Oui, ça va te paraître bizarre, mais tu vas voir.
Oui,
Pour justifier... Non, parce que pour justifier des investissements qui ne parlent à personne, par exemple sur l'ISS, où en fait, on va faire des petites recherches qui, peut-être dans 10 ans, auront un impact sur notre santé et compagnie, mais on ne sait pas du tout quoi, c'est pas, ça ne fait pas rêver, on parle d'aller sur Mars, alors qu'en fait, tout le monde sait que ça fait 40 ans qu'on dit ça, on sait qu'on n'y est pas prêt. Là, c'est un peu pareil. En fait, on parle d'IA, on te dit qu'il y aura les robots, les machins, que ça va remplacer 80 millions de jobs et compagnie. Et en fait, c'est plutôt pour justifier des investissements colossaux pour des petits trucs qui auront un effet plus tard, mais qui ne font pas rêver. Et donc, je pense que donc, je pense qu'il y a eu ce phénomène un peu de peur et de panique. Et donc, le législateur a agi et a fait le RIA. Après, il y a des choses quand même intéressantes. Et donc, pourquoi, pour répondre à ta question, pourquoi RGPD et RIA et deux choses différentes, c'est qu'ils sont complémentaires, tu as raison. 80% du RGPD, globalement, le RIA, il y a 80% du RGPD dedans. Mais il y a 20% qui ne sont pas liés au RGPD. Parce que je te disais tout à l'heure que le RGPD, enfin, on ne le disait pas d'ailleurs, mais le RGPD, c'est la protection des données à caractère personnel. Mais on peut avoir des données qui ne sont pas personnelles et qui sont confidentielles et qui doivent peut-être être protégées, je pense, au secret des affaires et compagnie. Et donc, en fait, le RIA, il va aussi s'appliquer à ces traitements qui ne sont pas des données personnelles.
D'accord, très bien.
Par exemple, j'ai une amie qui est, pour te donner une ordre d'idée, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai une amie qui est journaliste agriculture, en agriculture,
D'accord.
et qui est allée faire un reportage auprès d'une ferme où ils utilisent aujourd'hui l'IA pour faire de la reconnaissance faciale de vaches.
Ah oui.
Tu vois? Et donc, le but est
Et ça c'est
d'encadrer ce genre de choses.
interdit avec l'IA,
Alors, ce n'est pas
mais
interdit.
pour l'homme, non?
Non, c'est pas interdit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir certaines choses qu'il faut faire. Par exemple, par moment, peut-être informer. Il y a des règlements supplémentaires, mais tu as raison. Là où c'est le plus important et là où il y a le plus d'éléments sur le RIA, c'est typiquement quand c'est les protections des données. En fait, ce que fait le RIA,
Et
c'est qu'il
donc,
fait. Oui.
est-ce qu'elle a été condamnée pour les vaches?
Ah non, non, elle a le droit, elle a le
Oui,
droit.
très bien,
Elle
très
a le
bien.
droit. Elle a le droit. Il faut savoir que le RIA, il n'est pas encore entièrement applicable, appliqué. Il se fait par
D'accord.
strates, et la
D'accord.
dernière strate sera en 2026. Pour bien comprendre le RIA, en fait, il a fait quand même des trucs bien, hein. C'est que il fait une définition par risque de l'IA. Il te dit, il y a des IA, typiquement, c'est hors de question, tu n'as juste pas le droit de l'utiliser, tu n'auras jamais le droit. L'exemple typique, c'est ce qui se passe en Chine, justement, le scoring hein, des citoyens par profilage, etc. On voit bien que dans une démocratie, c'est impossible. C'est interdit en Europe. Et ça, c'est rassurant quand même. Par contre, il va y avoir des IA à haut risque, mais qui ne sont pas forcément comme. Oui.
Est-ce que c'est interdit ad vitam aeternam? Si par exemple on voit, supposons qu'il y ait des attentats qui se mobilisent, on ne peut pas voir prendre une foule et identifier les visages individuellement, mais si au bout d'un moment, avec un certain nombre d'attentats, il est fort possible qu'on vienne comme le modèle américain généraliste, où eux ils le font dans les grands stades.
Alors, ce qui
Donc c'est
est en
politique
fait.
au
Non,
total.
non, mais tu as raison. Alors, il y a un aspect politique, indéniablement. Ce qui est interdit, c'est vraiment le scoring global des personnes. Par contre, ça n'interdit pas, et ça a existé pendant les JO, d'utiliser l'intelligence artificielle dans des cas précis limités pour justement assurer. Et pour te donner, et pour répondre à cette question là que tu poses, le maire de Nice, il y a quelques
Oui,
semaines,
Estrosi.
voilà, Estrosi, la CNIL lui a imposé le retrait de la vidéoprotection via profilage dans toute la ville parce qu'il l'avait fait de manière généralisée. Or, la CNIL a dit attention, que tu le fasses de manière, effectivement, dans les événements qui le nécessitent, parce que là, il y a plus de risques, etc., et tout le monde le comprend très bien, Par contre, de manière généralisée, on arrive peut-être sur quelque chose de plus dangereux pour les libertés individuelles, et je pense que tout le monde peut le comprendre.
Bien sûr, bien
Donc,
sûr.
la CNIL lui a dit wow, attention, tu dois les enlever. Alors, ils ont un peu pesté, ce que je peux comprendre. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que donc le RIA et le RGPD, ils interdisent, ils n'empêchent pas, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça, plutôt, ça encadre.
D'accord. Donc ça,
Tu vois?
c'était la partie interdite, et puis il y en avait trois autres.
Oui, et celle. Alors, il y a, il y a le socle de base, c'est-à-dire globalement, il n'y a pas de risque du tout, on peut faire ce qu'on veut, c'est les chats un peu sans standard, comme le chat GPT ou les chats qu'on a en ligne pour les consommateurs, par exemple. Là, on a juste quelques obligations un peu basiques, comme bien indiquer que la personne doit être informée que c'est une IA derrière, par exemple.
D'accord.
Bon, mais il n'y a pas beaucoup de choses, c'est pas très, très encadré. Ce qui est le plus important, c'est plutôt le niveau à haut risque. C'est-à-dire les IA au risque. Les IA au risque, il y en a différents types, mais en RH, il y en a une très intéressante. Alors, ce ne sera pas de la formation, mais par contre, j'ai un exemple très clair en RH. C'est par exemple un outil qui va aider au recrutement. Et bien, celui-ci, il est considéré à haut risque parce que ben, il touche des salariés et il peut mener à une discrimination. Et là, il impose des choses, et des choses très intéressantes. Moi, j'ai discuté, alors on n'est évidemment pas d'accord, avec le CEO d'une start-up américaine qui me disait que c'était un scandale, que le RIA, il considère ça comme un haut risque, donc il impose des choses. Qu'est-ce qu'il impose? Bah, par exemple, que les réponses fournies ne soient pas, qu'il n'y ait plus d'hallucination là-dessus, que la réponse, elle soit exacte. Et je pense que ça, c'est pas déconnant. En fait, en gros, lui, il avait l'air choqué que. C'est-à-dire que son IA pouvait mener à des discriminations dans le cadre de recrutement parce qu'il peut y avoir des erreurs, et il trouvait ça pas déconnant, que c'est pas grave, c'était l'innovation, etc. Moi, ce que j'essaie de lui expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un frein à l'innovation, tu sais, ce genre de
Bien
choses,
sûr, bien sûr.
j'essaie de lui expliquer ce qui se passe aux États-Unis là. Il n'y a pas le RIA. Donc, on n'a pas imposé à des structures, par exemple, de fournir des résultats exacts. Qu'est-ce qui se passe? Typiquement, ChatGPT, ils sont attaqués, ils vont prendre très très cher parce que. À cause des hallucinations. C'est-à-dire, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait, je crois que c'était un maire d'une ville, je sais plus laquelle, quand on tapait sur ChatGPT ce qu'on en pensait, ChatGPT disait, bah alors, bon, il est maire de Sassam, bon, par contre, il a tué ses quatre enfants et sa femme, donc il se trompe, voilà, un truc bien diffamant, etc. Et donc, ça lui a causé un énorme préjudice, donc il a attaqué.
Donc,
Comment
est-ce que ça
s'appelle?
veut dire quand on utilise une IA pour le recrutement, dans ces cas-là, on parle, il faut la tester, on parle de bac à sable, de choses comme ça,
En fait,
sur le, oui.
non, pardon,
Comment,
excuse-moi, je t'ai coupé.
parce que c'est très pratique, parce que quand on a 100 000 CV qui viennent, si on peut faire une présélection, même après s'il y a une sélection humaine qui fait le chemin, c'est quand même bien pratique en termes d'organisation.
Tout à fait. Et le but n'est pas de l'interdire, encore une fois.
Ah,
Le
très bien.
but, c'est plutôt de protéger la structure, parce que si votre outil mène à une discrimination, vous allez vous faire potentiellement attaquer. Et si pour discrimination. Et parce que là, pour le coup, les lois existent déjà, c'est du pénal. Donc en fait, vous, l'obligation, c'est plutôt le prestataire va vous démontrer que son outil ne fait pas ces erreurs-là.
Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour démontrer qu'il n'y a pas de biais?
Et ben c'est là, justement, on doit faire des rapports techniques pour s'assurer que ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu plus lourd, c'est vrai, mais en même temps, c'est normal. Et c'est vrai que, tu vois, je vais te donner un exemple. Parce qu'en fait, l'IA, ça existe depuis longtemps. C'est juste que nous, on le prend en pleine face parce qu'il y a eu ChatGPT qui est arrivé. Mais il y a 10 ans, pour te dire, j'adore cette anecdote, c'était Amazon allait vous faire exactement un outil comme on parle, un outil de recrutement automatique. Sauf que c'était des hommes qui l'avaient codé, et ils ne s'étaient pas rendu compte qu'ils avaient mis des critères d'hommes. Et donc, en fait, à la fin, ils se disent, mais c'est bizarre, hein, on n'a plus de femmes qui recrutaient. Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dû arrêter parce qu'ils ne recrutaient plus de femmes. L'IA les excluait d'office. Et pourquoi ils l'ont arrêté? Parce qu'ils avaient un risque énorme. Donc, en fait, finalement, de toute
Bien
façon, tu ne vas
sûr.
pas utiliser un outil qui te met en danger.
Bien
Donc,
sûr.
effectivement, le prestataire, lui, doit faire un travail de démonstration technique pour s'assurer que, des tests, des machins, pour démontrer à son client et s'engager sur le fait qu'il n'y aura pas de risque. Bah, le RIA, on te dit que tu dois faire ça. Et ça ne me paraît pas choquant.
Et la sanction, si on ne
Alors,
satisfait pas?
aujourd'hui, il y aura des sanctions. Elles ne sont pas encore, parce que je dis, c'est à partir de 2026 qu'il y aura
D'accord.
vraiment ces sanctions. Mais effectivement, il y aura des sanctions financières. Ça sera la CNIL, pareil, qui va gérer ça. Pour être tout à fait honnête, j'ai un trou. Là, je ne me souviens plus quelles sont les sanctions, parce que comme c'est en 2026, je me suis permis d'avoir un trou. Mais
J'avais
ce n'est pas
entendu
encore le cas.
7%, j'avais entendu 7% de du
Je ne
chiffre
sais
d'affaires
plus.
mondial. Oui,
Ah oui, c'est énorme. C'est plus que
mais
le
c'est énorme.
RGPD dans ce cas-là.
Oui,
Ouais, c'est énorme.
exactement, c'est ce qui m'avait
Ouais,
surpris.
ouais, ouais, ouais.
à vérifier, donc je ne suis pas un spécialiste, donc à
Non,
vérifier.
mais tu vois,
Donc,
moi, effectivement, j'ai oublié. Donc, à revoir.
Très bien, impeccable. Donc, ça veut dire que donc c'est en 2026 où tout sera en place, alors que l'IAACT est déjà opérationnel pour son premier niveau depuis 2024.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment par strates, mais c'est justement pour préparer les structures à cette mise en conformité à l'IAACT et puis pouvoir voilà, ne pas dire aux entreprises, hop, c'est maintenant et pas demain. Alors, moi, ce que j'invite, évidemment, les structures, c'est à le faire maintenant. Et
Oui.
c'est même pas pour des questions de sanctions, d'autorité. Parce que aujourd'hui, et ça, il faut vraiment en avoir conscience, si vous êtes un acteur qui met en place de l'IA et que vous voulez le vendre, si demain vous respectez, si vous ne respectez pas le RGPD et le RIA, vous ne le vendrez pas. Tout
D'accord.
simplement. Hein. Aujourd'hui, c'est un frein business. Hein, parce que, alors, encore une fois, ça dépend de ton persona. Si ton persona, c'est des TPE ou entrepreneurs individuels, là, ils n'auront pas de DPO. Globalement, le risque est quasi inexistant. Par contre, dès que tu vas vers PME, ETI et grand compte, là, c'est terminé. Grand compte, tu ne vendras jamais. Le DPO, le premier truc qu'il va faire, c'est ça. Et nous, on le voit au quotidien. L'IA, aujourd'hui, fait peur. Il fait d'autant plus peur que l'essentiel des outils sont situés aux États-Unis, que les
Ou en
États-Unis, aujourd'hui,
Chine, ou en Chine.
ou en Chine. Alors, DeepSeek, on ne le voit pas du tout. On ne le voit pas du tout. Je pense que ça fait tellement peur que personne ne l'utilise. Donc, nous, on le voit. Vraiment, donc, nous, on ne le voit pas. On voit, par contre, on voit quand même 80. On ne voit pas Anthropique non plus. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, c'est vraiment OpenAI, évidemment, à 90% et 10% Mistral.
Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, on voit bien que les États-Unis, l'Europe essaie de construire une réglementation qu'elle impose sur son territoire. Et les États-Unis ont du pouvoir aujourd'hui. Quand on voit l'environnement de Donald Trump qui dit qu'avec l'IA Act, l'Europe, je reprends son terme qui est un peu enfantin, mais c'est derrière il y a une logique, et n'est pas très gentille avec les Américains et qu'il faudrait que ça cesse. Et donc les rapports de force font qu'on dit, c'est pour ça que le commissaire Breton est parti, parce que finalement il est trop guerrier et qu'on aimerait bien peut-être avoir plus, redescendre d'un niveau, peut-être moins de prétention, et en laissant les États-Unis imposer un peu leur réglementation par leur pouvoir économique. Tu
Alors,
dis ça a
ça,
du
c'est plutôt une
sens ou
question
pas?
politique. C'est plutôt une question politique. Et lui, il y a une idéologie derrière hein, qui n'est
Bien
pas la
sûr.
nôtre. Il faut pas être naïf. Il y a une première chose que disent beaucoup et que dit Donald Trump, c'est l'Union européenne régule il régule et il nous embête. Soyons pas naïfs, les États-Unis régulent encore plus que nous,
Exactement.
contrairement à ce que les gens pensent. Hein. En fait, il y a des régulations dans tous les sens. Eux, ils se privent pas de tout réguler et ils se privent pas d'utiliser le droit pour imposer certaines choses. Prenons l'exemple du RGPD, Donald Trump, et pas que le RGPD, il y a un autre, tu as parlé de M.
Le
Breton.
DMI aussi.
Exactement, ça a été les premières cibles de M. Trump. Et pourquoi? C'est pas, alors là, faisons un peu de. Non, pas de politique, c'est factuel, hein. C'est que le RGPD empêche, et le DSA-DMA empêche quand même c'est pas, à mon avis, pas, ça va pas assez loin, empêche la manipulation de masse de données. Donc en fait, si tu fais tomber ces réglementations, tu peux manipuler toutes les données comme dans tous les sens. Et je vais te donner un exemple, c'était Cambridge Analytica, par exemple. Je ne sais pas si tu te souviens de ce
Tout
scandale
à
qui
fait.
était voilà qui arrivait juste avant l'arrivée du RGPD. Maintenant, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui s'est passé hein? Voilà, ils ont récupéré les données de plein de gens, ils en ont fait des, ils les ont mélangées dans tous les sens pour avoir une opinion politique de personnes qui potentiellement savaient pas s'ils allaient voter à gauche ou à droite. Pour aller après les prospecter et faire de la campagne, des campagnes même de fausses informations et compagnie pour pencher d'un côté. On voit bien que dans une démocratie, c'est dramatique. Et par exemple, on voit. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, lui, il a plutôt cet objectif-là, c'est dans son idéologie
Bien sûr.
d'imposer son idéologie à l'Union européenne. Et moi, je pense, à titre personnel, qu'on a bien de la chance d'avoir ces éléments de protection aujourd'hui. Je pense même que c'est terrible que le DSA-DMA soit arrivé un peu tard parce que il a pu faire plus mal au DSA-DMA. Le RGPD étant très implémenté, c'était compliqué pour l'enlever. Aujourd'hui, le DSA-DMA, ils mettent un peu le frein. Mais je finirai, par exemple, sur même les lois antitrust. La Google qui se prend 3 milliards, c'est tout à fait normal. Si on ne le fait pas, Google va massacrer tout le monde. Et eux, ils s'empêchent pas, t'inquiète pas, si demain on a une entreprise qui va là-bas, ils ne s'empêcheront pas d'utiliser leur loi antitrust pour détruire la loi
Bien sûr.
l'entreprise. Voilà, donc c'est un rapport de force. Et on voit bien qu'en
Exactement.
Chine, pour finir, il dit rien. Pourtant, la Chine sont bien pires.
Exactement. C'est là où on voit le droit ne sort pas ex nihilo, c'est bien un rapport économique, social, et quand on est le plus fort, bah, on impose son droit, son extraterritorialité, ce qui en termes de droit de
Tout
la
à fait.
donnée est particulière aussi dans ces cas-là, et c'est dans la nature des choses, et si l'Europe ne se constitue pas une vraie puissance, eh bien dans ces cas-là, elle subira la puissance des autres, tout simplement. C'est ça qui se joue, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, ou
Ah,
peut-être que
moi,
j'ai
je
tort?
suis... Ah non, moi, je suis parfaitement aligné avec ce que tu dis. Aujourd'hui, le marché européen, et je trouve que c'est terrible d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que nos responsables politiques, quelle que soit la couleur, n'en ont pas conscience. L'Union européenne, c'est le premier marché mondial.
Oui, exactement.
Et en fait, quand tu es le premier marché mondial, en fait, globalement, tu fais ce que tu veux. Parce que les États-Unis, une boîte américaine, Google, elle ne vend rien en Chine. Elle n'a même quasiment pas le droit d'exister. Donc, ces deux gros marchés, l'Afrique n'est pas un énorme marché. Ces deux gros marchés, c'est États-Unis, Europe, globalement. Je résume, évidemment, mais c'est global, c'est là où ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est bien comme ça qu'on a pu imposer le RGPD, par exemple. Donc, tu as raison. Soit on n'est pas nombreux, chacun de notre côté, on essaye de se battre face à des mastodontes. Soit on est 400 millions d'Européens, premier marché mondial, tu as plus de poids. On dit souvent que l'union fait la force, je crois que c'est indéniable dans ce cas-là.
Très, très bien. Ben, c'est une belle conclusion, je trouve. Un bel espoir de construction. L'avenir nous le dira. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël Bouchard. Raphaël Bouchard, c'était un beau moment. C'est la première fois qu'on faisait des missions ensemble. Peut-être d'autres, si tu le désires et si
Plaisir.
tu l'acceptes. C'est avec plaisir. En tout cas, j'espère que tous nos auditeurs ont apprécié, ont plein de questions. Et s'ils ont des questions plus précises à te poser, comment est-ce qu'ils arrivent à te joindre?
Alors, ils peuvent me joindre, ils peuvent contacter directement DPO via notre site, hein, www.dipeo.com.fr, j'ai peut-être un doute d'ailleurs,
Comme.
.com, c'est ça, ou alors carrément l'adresse contact@dipo.com. N'hésitez pas à poser des questions. Je ne vous donne pas mon adresse mail parce que j'ai déjà tellement de demandes que sinon je ne m'en sortirai pas, mais évidemment, elle est traitée par toutes mes équipes et par moi et par mes spécialistes. Donc n'hésitez pas. Et merci beaucoup Stéphane, pareil pour l'invitation. C'était vraiment très sympa et très intéressant. Et au contraire, hein, n'hésite pas si ça intéressait et que tu souhaites en faire un autre, avec grand plaisir.
Merci beaucoup, au revoir à tous, bye bye.
Au revoir.